Et on débute avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Une rentrée sous le signe de la crise sanitaire, économique et sociale. Une chose à la fois, l'exécutif fixe ses priorités, répondre avant tout au rebond de l'épidémie de Covid. Le plan de relance attendra finalement la semaine prochaine pour être dévoilé.
Car la situation sanitaire est de nouveau à risque, estime le ministre de la Santé. 4897 nouveaux cas en 24 heures, du jamais vu depuis le déconfinement.
Masque obligatoire en entreprise, idem pour tous les élèves à partir de 11 ans. Dès la rentrée, la semaine prochaine, sera-t-il facile à accepter? Le regard d'une pédopsychiatre dans un instant.
Et puis des rues noires de monde à Minsk et des drapeaux rouges et blancs dans les vents. Les couleurs de la première Biélorussie indépendante brandie par les opposants au président Alexandre Loukachenko.
Après 26 années passées au pouvoir et une nouvelle présidentielle contestée, les manifestants sont des rats, déclare le président bélarusse, se montrant inflexible dans une vidéo en gilet pare-balles et Kalachnikov à la main.
Et puis la question du jour dans une dizaine de minutes, Catherine, Oradour-sur-Glane, un massacre pour mémoire. On en parlera avec un historien, Fabrice Grenard.
Ce devait être une séquence majeure pour l'exécutif. Détailler demain la répartition des 100 milliards d'euros pour relancer l'économie française. Mais il faudra finalement attendre la semaine prochaine. Car l'exécutif préfère se concentrer sur l'urgence sanitaire et le rebond épidémique. Près de 4900 cas positifs au Covid-19 recensés en 24 heures. 383 personnes en réanimation actuellement. 32 foyers de contamination ont été détectés, dont un dans un village naturiste du Cap d'Agde dans l'Hérault. Nous sommes dans une situation à risque face au Covid-19, met en garde le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le plan de relance économique attendra donc encore un peu Nicolas Ballut.
Ce que l'on veut éviter, c'est d'être débordé, mais on ne peut pas mettre un pays à l'arrêt, affirmait il y a quelques jours Emmanuel Macron. Devant la recrudescence des cas de Covid-19 et pour éviter un confinement, le gouvernement a pris des mesures qui bouleversent la rentrée des Français. Masque obligatoire dans les entreprises, masque obligatoire pour les élèves à partir du collège. Ces décisions, encore faut-il les mettre en œuvre et répondre aux inquiétudes. Le gouvernement est très questionné depuis le mois de mars sur sa capacité à maîtriser la crise sanitaire. Le Conseil de défense sera donc consacré demain à l'évolution de la pandémie. L'exécutif doit faire le point sur les protocoles sanitaires mis en place dans les entreprises, les établissements scolaires ou les transports. Le lendemain, les mesures seront encore sur la table du Conseil des ministres. Des ministres qui devront accompagner leur application. Sans oublier le volet pédagogique, Jean Castex pourrait prendre la parole pour une séance d'explication. C'est là aussi un test pour le Premier ministre.
Le retour de vacances pour de nombreux Français fait craindre le pire. Masque obligatoire donc en entreprise en cette rentrée, mais aussi pour tous les élèves de plus de 11 ans dès la semaine prochaine. Les parents devront équiper leurs enfants. C'est une fourniture comme les autres, estime le ministre Jean-Michel Blanquer. Et il faudra faire preuve de pédagogie pour que ce port obligatoire soit respecté, Maxime Fayolle.
L'acceptation du port du masque de façon obligatoire ne sera, quoi qu'il arrive, pas facile, prévient la pédopsychiatre Christine Barrois.
Je ne sais pas comment est-ce que ça peut prendre dans une école française à la rentrée. Aucune idée. Il faut leur expliquer que le fait de porter le masque, c'est un geste civique. En général, les enfants aiment bien, c'est-à-dire que c'est bien pour les autres. Moi, je pense que les enfants sont en général plus enclins à protéger autrui.
Et si les enfants auront plus de facilité à comprendre, il sera plus difficile de le faire accepter aux adolescents qui, eux, devront le porter pendant toute la journée et qui sont plus sensibles aux fausses nouvelles sur Internet, avertit Christine Barrois.
Qu'est-ce qu'on peut dire à des ados? C'est que c'est ton avis à toi. Est-ce que ça te semble logique de dire on sait que le fait d'être avec un masque empêche le virus de se propager aux autres? Quel est ton avis là-dessus? C'est aussi l'occasion pour des profs de faire une pédagogie sur les réseaux sociaux et leur, justement les fake news et la propagation des fake news.
La pédopsychiatre insiste, le masque ne doit pas devenir source d'angoisse au quotidien. Les professeurs vont devoir faire œuvre de pédagogie. Il s'agit d'une simple mesure de protection que chacun doit respecter afin d'éviter la propagation de la Covid-19.
L'Italie est elle aussi confrontée depuis plusieurs jours à une nette reprise de la circulation du virus, favorisée notamment par les déplacements et les retours de vacances. 1210 nouveaux cas de coronavirus recensés en 24 heures dans la péninsule. Un tiers de ceux enregistrés dans la région de Rome sont liés à des séjours en Sardaigne. De nombreux pays, à l'image de la Corée du Sud, durcissent les restrictions et les contrôles aux frontières par crainte d'une nouvelle vague de Covid-19.
7h05 sur France Culture. La suite du journal de Catherine Dutu. À la colère des manifestants, il répond par une démonstration de force.
Le président bélarusse Alexandre Loukachenko est apparu dans une vidéo hier dans sa résidence officielle à Minsk en gilet pare-balles, Kalachnikov à la main. Après le deuxième dimanche consécutif de manifestations, des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Minsk pour demander une nouvelle élection présidentielle libre et transparente. C'est ce que demande notamment Elena, 28 ans.
Nous sommes venus à cette importante manifestation pacifique pour que nous soyons entendus, pour que notre président comprenne enfin qu'il n'a plus de majorité et qu'il doit démissionner. Il y a trop de personnes qui ont été blessées. Ça ne se passera pas comme cela, on y croit. Ici, le message est clair, le président doit partir. Il n'y a pas de camp pour ou contre la Russie, ou pour ou contre les influences de l'Europe. Nous sommes biélorusses, nous ne croyons pas que nous ayons des ennemis partout. Ce n'est pas notre opinion, c'est celle du président.
Nous, biélorusses, ne croyons pas que nous avons des ennemis partout. Ce n'est pas notre opinion, c'est celle du président.
Elena, qui manifestait hier à Minsk, elle répondait à Valentin Tbilinski. Et pour seule réponse, les opposants bélarusses se sont vus partout bloqués par des unités anti-émeutes. Une situation suivie de très près par le Kremlin, qui essaie d'avancer l'idée d'une refonte de la constitution en Biélorussie comme un début de solution au problème de son petit voisin. Les précisions à Moscou de Claude Bruyot.
À partir de l'instant où l'on considère qu'une réforme constitutionnelle doit s'intégrer dans un calendrier qu'il sera alors possible d'étaler à l'envi, cette stratégie ressemble surtout à un gain de temps. Mais on ne voit pas comment le Kremlin va s'y prendre pour décider, surtout Alexandre Loukachenko, à engager ne serait-ce que des pourparlers avec l'opposition, qui est en réalité aujourd'hui en grande majorité la société civile biélorusse dans son ensemble. Puisque plus on avance dans le temps, plus le président biélorusse adopte un discours guerrier qui évoque sans arrêt la confrontation avec des ennemis extérieurs, à l'origine, selon lui, des manifestations comme celle d'hier. Un discours que le Kremlin fait semblant de relayer, bien conscient surtout que l'immense majorité des Biélorusses aujourd'hui est fatiguée par ces 26 années de pouvoir autocrate d'Alexandre Loukachenko, en espérant aussi que rien de contagieux n'interviendra à Minsk dans la suite des événements bien difficiles à prédire. Les seules prévisions fiables des jours à venir ne sont guère rassurantes, même s'il n'est question que de manœuvres, de fortes concentrations militaires biélorusses sont annoncées dans 5 jours dans la région de Grodno, près de la frontière polonaise.
Des manifestations en Biélorussie qui s'accompagnent effectivement de rassemblements de soutien dans 32 pays, et notamment en Lituanie, pays frontalier de la Biélorussie. C'est le reportage à suivre à 7h24 sur la frontière lituano-biélorusse. Lui est donné battu à la prochaine présidentielle américaine. Donald Trump aborde la convention du Parti républicain qui s'ouvre aujourd'hui à Charlotte en Caroline du Nord, avec l'obligation de se relancer et de se rassembler au-delà de sa base aux États-Unis. On y revient dans le journal de 7h30. En Inde, ont commencé les célèbres festivités du dieu Ganesh, des processions qui rassemblent d'habitude des millions de citoyens, mais que les autorités tentent d'adapter au contexte sanitaire, d'autant que le seuil des 3 millions de cas a été franchi en Inde. La correspondance de Combastin.
Commencé samedi, le Ganesh Chaturthi est un événement majeur de l'hindouisme qui célèbre l'arrivée sur Terre du dieu éléphant. Né à Bombay, la fête s'est répandue dans de nombreuses villes indiennes et même à l'international. Dans la capitale du Maharashtra, certaines processions peuvent rassembler plus d'un million de personnes. À Bombay, ville parmi les plus infectées, les cérémonies ont bien lieu, mais cette année, même les dieux font les frais du contexte sanitaire. À commencer par les statues de Ganesh, traditionnellement jetées dans l'eau. Leur taille sera réduite pour limiter la promiscuité entre participants et permettre de les immerger chez soi. Malgré toutes les précautions, il est difficile d'éviter des rassemblements périphériques aux festivités. Une habitante venue faire son marché témoigne.
Les Indiens sont si heureux de ce festival qu'ils oublient les règles de distanciation sociale sur les marchés. C'est le chaos total ici. Il faudrait que les autorités régulent.
À Bangalore comme à Bombay, l'approche des fêtes a poussé les Indiens à s'entasser pour acheter des offrandes dans les échoppes. Ce dimanche, aucun débordement majeur n'est cependant à déplorer après 2 jours de célébration.
Combastin en Inde pour France Culture. En ces temps de crise sanitaire, un rapport sur la présence des femmes dans les médias doit être rendu par la députée LREM Cérine Calvez en septembre. En juin dernier, le rapport d'État révélait que sur l'ensemble des experts interviewés entre les mois de mars et de mai dernier, 20% seulement notamment été des femmes, pour faire donc progresser leur présence de ces expertes dans les médias. Un outil a notamment été créé, un site internet accessible gratuitement qui référence des milliers de spécialistes féminines dans divers domaines. Ce site vient de fêter ses 5 ans et il a chaque année un peu plus de succès, Fiona Mogadam.
En 5 ans, ce sont près de 4000 femmes spécialistes qui ont été répertoriées sur le site des expertes qui enregistrent plus de 22 000 visites par mois. Ces visites ont d'ailleurs été multipliées par 6 rien que ces 3 dernières années et les conséquences s'en ressentent pour Caroline Dehas, la fondatrice du site des expertes.
C'est une augmentation non négligeable du nombre de femmes présentes dans les médias. Puisque lorsqu'on lance le site en 2015, en fait, il prend le relais d'un guide de forme papier. À l'époque, il y a autour de 20-25% de femmes expertes interviewées dans les médias. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 35-40%.
Des chiffres qui s'expliquent aussi par une réelle volonté de parité dans de nombreux médias, avec des objectifs sur le pourcentage d'expertes à atteindre, des comptages du nombre de femmes interviewées dans les différents articles. Le CSA publie aussi un rapport sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio tous les ans. Et pour qu'un outil comme le site des expertes perdure, il faut des moyens. Jusqu'à présent, le site fonctionnait grâce à ses fonds propres et une participation de Radio France et France Télévision. À défaut de plus de financement, il pourrait tout simplement fermer. Caroline Dehas.
L'égalité entre les femmes et les hommes ne se fera jamais de manière naturelle. On a besoin à la fois d'impulsions politiques fortes. On a aussi des associations comme Prenons la Une, par exemple, qui ont joué un rôle déterminant pour faire avancer les rédactions sur ces sujets-là. Et puis, on a besoin d'outils techniques. Si le site ferme, il y a un risque qu'on recule en termes de place des femmes dans les médias, c'est sûr.
Trouver les financements nécessaires et préserver l'indépendance du site, c'est aussi ce que préconisait le rapport d'étape sur la présence des femmes dans les médias en temps de crise, publié en juin. Il jugeait l'initiative bénéfique et devant être encouragée.
Un dossier à retrouver sur franceculture.fr. Le temps de ce lundi 24 août, nuageux, voire pluvieux au nord de la Seine, plus ensoleillé au sud. Les températures sont comprises ce matin entre 10 et 17 degrés en moyenne, jusqu'à 23 près de la Méditerranée. Au meilleur de la journée, il fera 21 degrés à Lille et à Quimper, 24 à Paris, 25 à Dijon, 26 degrés à Poitiers, 27 à Lyon, 28 degrés à Toulouse et à Nice, 31 à Corté.